va prier. Oui, comme disait le petit Samuel, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Il n'y a personne ici qui peut prétendre, même pas moi, de ne pas avoir à écouter, parce que je sais, parce qu'on sait tout, parce que on a tout entendu, parce que enfin, etc. Oui, Seigneur, toute notre vie, tu veux nous aider à grandir dans la connaissance de ta volonté, tu veux nous aider à grandir dans la sanctification, et nous avons tous des pas à faire, moi le premier, pour aller de l'avant. Je ne sais pas, Seigneur, ce que, comme on a prié tout à l'heure, ce que tu réserves à chacun, mais je te remercie pour cette parole que tu veux laisser sur notre cœur pour nous aider dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, pour l'amour de ton nom. J'ai intitulé, alors je pense que c'est aussi ici que j'ai commencé à parler des paraboles dans Ézéchiel. C'est ça ou c'est pas ça?
Non, c'était quand Jean était en prison.
Quand Jean était en prison, d'accord. Voilà, très bien, merci. Je m'étais dit, c'était... Pardon?
Et on ne comprend pas pourquoi.
Et voilà, il y a des choses comme ça dans nos vies, n'est-ce pas? Et... ce qui m'a fait réfléchir là ces derniers temps, parce que j'ai eu ça beaucoup à cœur, après plus de 40 ans de ministère, il y a des questions qui reviennent, et on se dit, comment je dois faire? Comment je dois aller de l'avant? J'ai souvent pensé à des personnes que je connaissais depuis très longtemps, à qui j'ai annoncé l'évangile, à qui j'ai montré un petit peu par ma vie ce qu'était la vie en Christ. Et puis je me rends compte qu'il n'y a rien qui s'est passé dans leur vie, il n'y a pas de conversion, puis ça me touche. Et puis il y a des nouvelles personnes que je rencontre ces derniers temps, et je me dis comment je vais leur annoncer l'évangile avec la culture dans laquelle ils trempent, à savoir une culture où ils n'ont plus aucune connaissance de la Bible, aucune connaissance de Jésus, ils n'ont pas d'arrière-plan particulier, seulement des fois des parents qui ont dit qui étaient athées, ou d'autres qui ont dit « ils choisiront quand ils seront grands », mais en fait on ne leur a rien dit, donc ils ne peuvent pas choisir si on ne leur a rien dit. Et nous on est là face à face et on se dit « qu'est-ce qu'on va leur dire? Par quoi on va commencer? Est-ce qu'il va se passer quelque chose dans leur vie pour que les choses changent ?» Et ça, ça me questionne. Et puis... j'ai relu, il y a un petit moment, j'ai relu Ézéchiel, et en relisant Ézéchiel, j'ai trouvé deux choses qui m'ont touché. La première, c'est qu'on pourrait parler donc des paraboles qu'on va trouver dans Ézéchiel, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. À l'église à Villers, j'ai parlé d'une dizaine de paraboles qu'on va trouver à l'intérieur de ce livre. Alors, paraboles, on pense plus... ah, excusez-moi, il y a toujours Siri qui veut parler avec moi, mais je ne suis pas d'accord. Voilà, il est mieux que tu te taises. Et les paraboles, on pense plus souvent aux évangiles, on pense à Jésus, on passe rarement à aller chercher dans Ézéchiel. Et puis, il y en a une qu'on connaît très bien, c'est donc Ézéchiel chapitre 37, on en lira quelques passages, quelques versets tout à l'heure, Ézéchiel 37 qui parle des ossements desséchés. Tout le monde a entendu parler de ce passage très particulier que je vais faire coller à mon introduction. Alors, peuvent-ils revivre? C'est vraiment ma question aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien que tous les gens de Darnay viennent à l'église. Hein. D'arriver ici, puis de dire, pas à cause de moi, mais ou pas grâce à moi non plus, mais d'arriver ici, de dire, j'ai plus de place pour stationner. Il y a tellement de monde. Vous, non? Moi, je rêve toujours de ça. Hein. Quand je viens au culte et que je vois plein de voitures devant moi, je dis, ils viennent tous là, puis non, ils fouillent rouge, je continue tout droit. C'est dommage, hein? C'est dommage. Et la question que je me pose, c'est le titre que j'ai donné là, peuvent-ils revivre? Peuvent-ils revivre? Ézéchiel 37, 11, il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Et ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. Alors c'est vrai qu'à cause de leur désobéissance, les Israélites, sur leur terrain, ils ont été attaqués par les Babyloniens. Et puis les têtes sont parties en exil dans cette ville de Babylone, cette ville pécheresse, cette ville qu'on reconnaît comme étant le monde. Et puis Dieu va avertir le peuple qui est à Jérusalem que Jérusalem va être détruite. Alors dans le texte d'Ézéchiel 37, il y a déjà 30 ans d'exil qui sont passés. Hein, 30 ans sur 70, puisque Dieu a dit « pendant 70 ans, vous serez en exil, enfin, etc. » 30 ans, c'est deux générations. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Qu'est-ce qui se passe dans la deuxième génération? Ça nous questionne aussi. C'est plus long que ce passage du désert, de la sortie du peuple hébreu de l'Égypte pour arriver dans le pays promis, puisqu'ils y sont passés 40 ans, et c'est, comme le Seigneur l'a dit, pour que la première génération meure dans le désert avant de rentrer parce qu'ils ont désobéi. Là, on voit une phrase qui est très forte. Nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite et nous sommes anéantis. Peut-être que c'est votre impression aujourd'hui, non? Vous êtes en pleine forme? Est-ce que vous êtes en pleine forme spirituelle? Ça se saurait, c'est ça? Alors, c'est vrai que, spirituel ou physique, on est obligé de se rendre compte que ce n'est pas toujours la meilleure des formes, et on voit aussi que chez certains de nos proches, y a des gens qui ne vont pas bien, il y a des gens qui sont en burn-out, il y a des gens qui sont en dépression, il y a des gens qui sont fatigués de leur situation, fatigués du monde, de la vie du monde qui est autour d'eux, fatigués aussi du manque de projection pour l'avenir. Et certains se posent la question, quel est l'espoir pour moi et pour mes enfants? La grande question qui se pose. Avec ce passage de Ézéchiel 37, ce que j'aimerais voir en particulier, et ce dont j'aimerais m'entretenir, c'est en particulier notre regard à nous et l'espérance que le Seigneur veut nous donner. L'espérance que le Seigneur veut nous donner. On parle d'une espérance vivante que le Seigneur veut placer en nous. Quelquefois, on se demande où elle est cette espérance. Est-ce qu'elle est là en vie ou est-ce qu'elle est presque anéantie? C'est des choses qui se passent aussi à l'intérieur de nos vies. Ce texte ne va pas parler de résurrection, mais il va parler de reconstitution, de régénération. C'est Paul qui va dire dans Éphésiens 2, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Il nous a rendu à la vie. Alors, le texte dont je parlais des paraboles là tout à l'heure, le texte va parler, alors on dit, de trois oracles particuliers. On va parler donc de la recomposition, d'un souffle qui est donné, et puis de ramener ce peuple dans le pays promis. Alors c'est vrai qu'on aurait pu lire le chapitre 36 pour mieux comprendre le 37, mais je vais me limiter à ça. Alors je vous propose d'ouvrir vos Bibles, ou vos smartphones, mais vos Bibles dans vos smartphones, dans Ézéchiel 37, et on va lire les 14 premiers versets. Alors Ézéchiel est pourtant un livre assez imposant, mais on a des fois du mal de le trouver, ça c'est une réalité. Alors je vais vous le lire, je ne vais pas l'afficher, je vais vous le lire. « La main de l'Éternel reposait sur moi et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Et il m'a dit, « Fils de l'homme, « ces eaux pourront-ils revivre ?» Et j'ai répondu, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Puis il m'a dit, « Prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'éternel à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. » Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit, un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Et il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit, prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit l'Éternel. L'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Et ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. C'est pourquoi prophétise. Tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je vais ouvrir vos tombes, je vous en ferai sortir. Vous qui êtes mon peuple, je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir. Vous qui êtes mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Incroyable, incroyable. Qui n'a jamais vu cette histoire? On la connaît cette histoire. Mais on a quelquefois du mal à pouvoir nous l'appliquer dans notre vie de tous les jours. C'est Esdras et Néhémie qui vont affirmer aussi une chose. On va retrouver ça souvent dans leurs deux livres. La bonne main de mon Dieu était sur moi. Et Ézéchiel dira la même chose. La bonne main de mon Dieu était donc sur Ézéchiel. Comme Jean dans l'Apocalypse qui fut saisi par l'Esprit et comme Jésus fut transporté dans Matthieu 4 par l'Esprit pour aller dans le désert, Ézéchiel fut transporté par l'Esprit, spirituellement donc, dans une vallée pour qu'il y voie à quoi ressemble le peuple de Dieu à son époque. La vision, elle est terrible, la mort est là, et la mort est là depuis longtemps, puisqu'il ne reste plus que des os. Alors c'est vrai, on pourrait appliquer ce texte directement à la vie d'Église, à la vie des églises ou la vie de l'église en général, et on pourrait se plaindre en disant « Waouh, l'église, il n'y a plus rien !» D'accord ? C'est un des aspects. Là, c'était proposé en particulier aussi pour la situation du peuple d'Israël qui avait quitté le giron du Seigneur. Et c'est pourquoi ils étaient dans cette situation. Alors, je vais vous laisser 7 points différents. Oui, 7 parce que c'est biblique. Hein. C'est 3, 7 et puis 12. D'accord ? Après, c'est 144 000, donc je n'irai pas jusque-là. Hein. Je peux vous rassurer. Je vais vous laisser donc 7 points différents extraits de ce fameux passage. Le premier point, pardon, sans Dieu, il n'y a aucun espoir et impossibilité de redonner vie. Il faut qu'on en soit conscient. Je lisais encore un article là sur l'objectif de la future génération avec l'intelligence artificielle. Et maintenant, il y avait une phrase qui disait que l'intelligence artificielle sera là pour faire mourir la mort. J'avais jamais lu ça quelque part. Si vous avez lu le feuillet du calendrier hier, ça portait un petit peu là-dessus. Donc j'ai fait mes recherches et c'était assez touchant. Voilà. Alors je n'ai pas l'intelligence artificielle. Hein. Par contre, j'ai peut-être une bonne nouvelle pour ceux qui veulent faire une étude publique. Il paraît qu'il y a un site internet géré par une intelligence artificielle, vous lui donnez le verset biblique et lui, il vous fait des commentaires. Et j'ai trouvé ça assez bizarre, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est un de mes collègues qui a dit qu'il a fait le test et il a trouvé qu'à la fin du commentaire, l'intelligence artificielle lui a dit « Ceci est une explication plausible, mais... » elle n'est pas obligatoirement inspirée par le Saint-Esprit. Alors, mon collègue a dit, c'est peut-être la seule phrase vraie qu'il a dit dans tout le texte, mais enfin, c'est impressionnant. Sans Dieu, aucun espoir, impossibilité de redonner vie. On en est conscient. Dieu va obliger Ézéchiel à regarder les choses comme lui, comme Dieu les voit. Il regarde dans la vallée, il voit que des eaux qui sont desséchées. Il ne se passera plus rien avec des eaux qui sont desséchées. On est conscient de cela. Mais comment Dieu voit le monde aujourd'hui? Comment Dieu nous voit les gens aujourd'hui? Moi, quand je regarde dans la rue, depuis ma fenêtre, dans un petit coin de ma fenêtre, j'arrive à voir la rue, et qu'est-ce que je vois? Je vois des hommes, des femmes qui courent, je vois certains qui crient après leurs enfants, ben oui, ça arrive, j'en vois d'autres qui courent après le tram, d'autres qui ont le casque sur la tête et qui écoutent de la musique un peu trop forte parce que j'arrive à l'entendre. Je ne sais pas comment leurs tympans réagissent, mais c'est leur problème. J'entends la police qui passe à toute vitesse, j'entends les chiens qui jappent et j'en passe. Il y a des bruits, il y a de l'odeur, il y a de la vie, n'est-ce pas? Il y a de la vie. Mais Ézéchiel, quand il a vu ça, il n'y avait plus rien. Des eaux desséchées qui jonchent le sol. Tout un peuple qui est là, dans cette vallée, et il ne se passe plus rien. Il n'y a plus aucun espoir dans cette situation. Plus aucun. Même les meilleurs scientifiques ou les meilleurs médecins de notre temps ne s'y arrêteraient pas. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des os? Déjà qu'on vous déclare comme mort à partir du moment où l'encéphalogramme est plat, c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Bah là, il n'y a plus que des os. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus rien. Pour la plupart, je dis bien pour la plupart, nos contemporains qui courent, si on les regarde du point de vue spirituel, ils sont dans ce même état déclaré par la parole de Dieu. Si tu n'es pas transformé par le Seigneur, tu es considéré comme mort. Mort spirituellement. D'accord? Et ça, c'est impressionnant. Et maintenant, quand je regarde dans la rue, je me dis, qui est vivant dans tous ceux qui courent? C'est un de mes collègues de la génération d'avant qui disait toujours, quand je regarde dans la rue et je vois un chrétien qui passe, je me suis dit, ah ben ça c'est génial, c'est Jésus qui passe dans la rue. J'arrive pas toujours à réfléchir de cette manière. D'accord? Sans Dieu, aucun espoir et impossibilité de redonner vie. Deuxième, le verset 2 dit « Il me posa au milieu de la plaine, il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux sur la face de la plaine, et voici, ils étaient très secs. » Dieu a demandé à Ézéchiel de faire le point, et de pouvoir dire « Voilà, il faut que toi tu regardes et que tu en tires la conclusion. » Il ne se passe plus rien, il n'y a plus de vie. Ça m'a obligé, moi aussi, à regarder les choses sur moi-même. Est-ce que de temps en temps, vous vous regardez vous-même? Oui, je me regarde dans le miroir, et puis, comme dirait la parole, je vois que mes cheveux ne sont pas tout à fait bien, puis je m'en vais et j'oublie. Surtout avec l'âge, j'oublie vite, n'est-ce pas? Et des fois, ça m'arrange bien. Des fois, ça m'arrange bien. Est-ce que de temps en temps, je me questionne sur ce là où j'en suis dans ma relation avec le Seigneur? Je pense que c'est nécessaire pour pouvoir grandir, si c'est là notre objectif. C'est nécessaire, c'est fondamental pour pouvoir grandir avec le Seigneur et aussi lui rendre honneur. Voir où nous en sommes. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est notre bien-être personnel. Mais en fait, ce que Dieu voudrait, c'est que nous puissions être des serviteurs efficaces pour lui et être bien à notre place devant lui et dans ce monde dans lequel il nous a placés. Et c'est pourquoi j'ai envoyé la semaine passée à toutes les personnes de l'Église, j'ai envoyé un petit questionnaire qui porte justement là-dessus. Où est-ce que j'en suis du point de vue spirituel? Est-ce que je suis en forme? Est-ce que je suis malade? Ou est-ce que je suis des eaux desséchées? Où est-ce que j'en suis? Après, on est obligé de regarder aussi nos contemporains. Alors, il y a un discours que j'ai du mal à entendre, et je l'entends très fréquemment, où les gens disent que les autres à l'extérieur soient sauvés ou pas, cela regarde Dieu seulement. Je ne suis pas sûr que ce soit le message que Dieu nous fasse passer. On n'est pas appelé à être des juges sur nos contemporains, et quelqu'un disait à l'étude publique l'autre jour qu'on doit être conscient qu'il y a des gens qui sont du monde et qui font les choses mieux que nous. Il y a des gens qui sont dans le monde et qui ont 12 points sur leur permis et nous n'avons peut-être pas tous. Enfin, moi je suis content qu'après 6 mois, ils m'en ordonnent un, d'accord, pour retrouver mes 12. D'accord, il y a des gens, des non-chrétiens qui ont un modèle de vie qui est assez extraordinaire. Mais malgré tout, comme on le disait tout à l'heure, malgré tout, si nous ne sommes pas les scanners de Dieu pour pouvoir dire « Waouh, je le scanne et je sais, lui, il est chrétien, lui, il ne l'est pas », malgré tout, nous ne sommes des brebis du divin berger et le Seigneur nous appelle à pouvoir évangéliser. Et on évangélise qui ? On évangélise des non-chrétiens. Encore faut-il savoir s'ils le sont ou pas, s'ils sont sauvés ou pas. Si on fait croire à un non-chrétien qu'il est chrétien, qu'on le considère comme chrétien, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on le balance au-dessus d'une falaise pour qu'il meure. D'accord ? Et c'est toujours cela qui m'a fait réfléchir. État des lieux, nous devons faire notre état des lieux et voir aussi ce qui se passe aux alentours. Y a-t-il de l'espoir ? Le verset 3 dit « Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux revivront-ils ? » Puis je dis « Seigneur éternel, tu le sais. » J'aime beaucoup cette réponse. À Dieu. C'est Jésus qui va poser dans Jean chapitre 5, il va poser la question à cet handicapé au bord de la piscine. « Veux-tu être guéri ?» Bah évidemment. Pourquoi tu poses la question ? Il lui a demandé de faire lui-même l'état des lieux. « Tu es malade et est-ce que tu crois que je peux intervenir ?» Ce qui signifie que la personne à mobilité réduite, comme on dit aujourd'hui, reconnaisse publiquement son état, au moins devant Dieu. C'est la première étape pour nous donc, reconnaître mon état, comme ce que nous avons déjà vu tout à l'heure. C'est vrai que souvent nous sommes prêts à dire « ne t'inquiète pas, ça va aller ». Tu vois, je peux encore parler, c'est pas si mal. Puis il y en a qui sont dans un état pire que le mien. Non, c'est pas ça que le Seigneur attend. Le Seigneur attend que les personnes puissent reconnaître leur état pour que lui puisse intervenir et c'est là où il y a quelque chose de formidable qui va se produire. Reconnaître aussi que rien n'est impossible à Dieu et que Jésus a la possibilité de changer en profondeur cet état. Je viens trop souvent devant Dieu en pensant que ma situation est tellement terrible que rien ni personne ne pourra rien faire et ne pourra faire quoi que ce soit pour moi. La réponse d'Ézéchiel est complètement différente, elle est pleine d'enseignement. Elle est dit, mais toi Seigneur, mais toi tu le sais. Moi, humainement parlant, je dis non, il ne se passera rien, mais toi tu es un Dieu souverain, tout puissant, tu es omniscient, tu sais et si tu veux faire quelque chose, tu peux le faire. Ézéchiel m'a fait penser à Gédéon. Gédéon qui était caché derrière le pressoir. Il m'a fait penser au petit Samuel. Il m'a fait penser à David contre Goliath. Il m'a fait penser à Moïse qui fuyait devant l'appel de Dieu. Trop peu, trop petit, trop jeune, trop sans diplôme et sans assez de dons et d'expérience. « J'ai pas tout ce qu'il faut, Seigneur, pour rassembler tous ces eaux, etc. Mais je sais que toi, tu peux, si tu le veux. Avec Dieu, son plan se réalisera, quelle que soit mon estimation personnelle de la situation. » Alors, dans le point 4, ce qui m'a intéressé, du verset 4 à 7, c'est « parle de la parole ». En fait, ce que Dieu va faire par rapport à Ézéchiel, c'est lui dire « toi, effectivement, tu peux rien faire, mais tu vas quand même participer. Et ta participation, c'est « annonce la parole ». Ézéchiel aurait pu, à la manière de Jonas, être spectateur. Vous savez, quand il a regardé Ninive, là, il s'est assis sous un ricin en tant que spectateur et il a regardé de loin ce qui allait se produire et dire bah, « Attends Dieu, qu'est-ce que tu vas faire au travers de tout cela ?» Il a attendu. Jonas était un homme qui était vexé aussi parce qu'il avait annoncé encore 40 jours et Ninive sera détruite et finalement les choses ne se sont pas passées comme il avait imaginé. Ézéchiel a été poussé à annoncer la parole de Dieu pour que les choses se précisent. Je le disais tout à l'heure, je suis toujours peiné de voir des gens qui ne sont pas chrétiens et je ne sais pas quoi leur dire pour que leur vie puisse être transformée. Pourtant, je suis un professionnel, comme on dit. Et c'est là que le Seigneur m'a rappelé la chose la plus importante. Tu as ma parole entre les mains, prêche la parole, et c'est moi qui ferai le reste. Moi, j'ai envie de convertir les gens. Mais ça ne marche pas. C'est Dieu qui transforme. Et c'est seulement après cette prédication d'Ézéchiel que Dieu va opérer un miracle. Dieu aurait pu le faire sans l'intervention d'Ézéchiel. Dieu aurait pu agir d'une manière 11 millième de seconde, il a envie et hop, tout ça redevient des êtres humains. Mais non, il y a eu toutes ces étapes et Ézéchiel était partie prenante. Alors les os se rassemblent, il y a de la chair qui commence à revenir, etc. etc. Mais de toute façon, il n'y a pas de vie quand même. Il n'y a pas de vie. Il faut que la vie soit insufflée. Alors, Dieu va encore pousser Ézéchiel un peu plus loin, versets 9 et 10. « Parle au Saint-Esprit. » Pourquoi parler au Saint-Esprit? On discute déjà tous les deux, ça suffit, non? Hein? Puis le Saint-Esprit et Dieu, c'est la même chose. Puis, parler à ton esprit, Seigneur, c'est ton boulot, non? Le texte dit « Prophétise à l'intention de l'Esprit, prophétise, fils de l'homme, tu annonceras à l'Esprit. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. » L'Esprit, rouant en hébreu, le souffle littéralement. Ça nous rappelle la Genèse, dans Genèse 2, verset 7, hein, n'est-ce pas? L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Première étape. Dieu a reconstruit le corps, la deuxième étape, il a mis la vie à l'intérieur. Dieu nous demande de la même manière de pouvoir être des collaborateurs dans son œuvre, dans une conversion, dans une nouvelle naissance. Nous devons aussi demander au Saint-Esprit d'entrer chez la personne et d'y faire sa place. C'est ce que nous avons fait aussi en ce qui concerne notre propre conversion. C'est cela qui nous donnera la vie. Sans l'Esprit de Dieu en nous, il n'y a pas de vie. C'est Romains 8 qui va le dire d'une manière encore particulière. Sixième. La part de l'homme contre la part de Dieu. VS, donc contre la part de Dieu. Alors en ce qui nous concerne, et c'est pour être très pratique, on est chrétien né de nouveau, il nous faut faire notre propre bilan pour que Dieu nous dirige, nous reconstruise, nous régénère si besoin, et nous devons compter sur Dieu pour son action. S'il peut donner vie à des eaux desséchées, Dieu peut aussi nous sortir d'une situation la plus inextricable qu'on puisse rencontrer. C'est quelquefois mon bilan. Moi, je suis au fond du gouffre, je ne m'en sortirai jamais, c'est fini pour moi. Mais Dieu peut permettre que ma vie puisse changer à la manière de ces eaux, situations dont on ne peut plus rien faire et Dieu a régénéré. Dieu n'est limité par rien, sinon par notre propre décision. Nous devons nous souvenir que la nouvelle naissance est un miracle. La nouvelle naissance est un miracle. Un miracle qui vient de Dieu, quel que soit le délai dans lequel ça se passe. Mais une transformation à l'intérieur d'une vie, c'est vraiment un miracle qui vient du Seigneur. Et Dieu de l'autre côté, peut-être que Dieu nous a dit quelque chose ce matin. Dieu t'a dit quelque chose ce matin. Alors, fais ce qu'il te dit. Écoute-le. Et pense à agir. Dans sa grâce, Dieu t'a équipé. Dans son amour, il mettra ses paroles dans ta bouche pour que tu parles de son amour incommensurable. C'est ce qu'il me dit aussi à moi. Je pense en particulier à une personne que j'aimerais bien voir au salut, mais l'appel est lancé de la part de Dieu. Parle, parle. Alors, je ne vais pas m'étaler sur ce verbe « prophétiser ». Prophétiser, pour nous, on a toujours vu, on a toujours pensé que c'était dire des choses qui allaient venir. Mais ce n'est pas que ça. Quand je regarde ce fameux passage de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens nous dit que parler, c'est parler de la part de Dieu, dire des paroles de la part de Dieu. Et je pense qu'une étude publique, une prédication, etc., fait partie aussi de prophétiser. c'est parler aux hommes dans le but essentiel d'édifier, d'exhorter et de consoler. C'est ce qu'on va trouver dans 1 Corinthiens 14, verset 3, mais Actes 15, 32 aussi en parle, et Apocalypse 19, verset 10. En fait, dans le Nouveau Testament, pour le Nouveau Testament, il est dit, dans les Actes, il n'y a que trois prophéties prédisant des événements futurs, Actes 11, 13 et 21. Et pourtant, beaucoup ont prophétisé dans les Actes et même l'Apocalypse, ce qui est essentiellement une révélation de l'avenir, avait mis donc pour mission immédiate de fortifier, d'encourager les chrétiens confrontés à la persécution de leur temps. Le prophète ne dit pas des généralités, il nomme des choses concrètes par leur nom, donne une promesse précise pour une situation précise. La note spécifique de la prophétie, c'est son caractère particulier, c'est une parole particulière inspirée par Dieu, donnée à une personne précise ou à un groupe particulier dans un but particulier, à un moment particulier. C'est pasteur Watson qui dit ça. Je donne un exemple très concret. Dans une église, il y a un collègue qui va faire sa prédication comme d'habitude. Et à la fin du culte, il y a quelqu'un qui vient le voir et qui vient lui dire « J'en ai marre, parce que chaque fois que je viens à l'église, tu parles de moi. » Et lui, connaissant bien cette personne, se dit « Mais je ne comprends pas pourquoi il me dit ça, parce que je n'ai pas nommé son prénom et en rien, je n'ai parlé de sa vie. » Il dit « Je ne comprends pas. » C'est un autre collègue qui lui explique et puis qui lui dit « Non, non, toi, tu n'as pas parlé de lui, mais Dieu lui a parlé. » Et je n'ai pas toujours conscience de ça, que chacun d'entre nous peut vivre exactement la même situation, que tout d'un coup, je vais commencer à dire quelque chose, je vais parler de quelque chose, et la personne va être percutée par cette parole de la part du Seigneur. Et ça, il faut que j'en reste conscient. Alors, on va conclure. Quel est le but de cette régénération, de cette prophétie, de ce mot qui nous a été laissé ce matin dans Ézéchiel 37. Ce texte est plein de l'espérance qui vient du Seigneur lui-même. De rien, le Seigneur donne la vie et la vraie. Il ne donne pas seulement des corps équipés musculairement, mais il donne l'esprit, le souffle, la vie, quoi. Comme lors de sa création. Dans ta vie, tu crois que tu ne t'en sortiras jamais. Mais si Dieu a opéré une telle chose, un tel miracle, il peut aussi changer quelque chose dans ta vie. Il peut changer aussi les circonstances. Tu crois que telle ou telle personne ne pourra jamais se convertir. Si Dieu a fait cela, il peut changer ton Saul de Tarse. Deuxième chose, c'est une nouvelle excellente et formidable pour nous et les témoignages que l'on peut rendre par le souffle de l'Esprit de Dieu pour nous faire vivre. Mais il y a un deuxième but, un vrai but ultime pour qui revient donc le but final de cette génération, de cette régénération, pardon, pour Dieu et pour que sa gloire éclate aux yeux des nations, pour que le nom de Dieu ne soit jamais bafoué. Moi, j'aime bien quand il se passe une conversion et j'aime bien en parler parce que j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose. C'est triste, hein, parce qu'en fait, c'est surtout pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que la gloire lui revienne. Notre nouvelle naissance nous donne l'assurance de la vie éternelle, mais reste un témoignage face au monde de la puissance de Dieu. Et à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, il y a cette phrase qui est citée, « Et vous saurez que je suis l'Éternel ». Je vous laisse relire Ézéchiel 36, ça donnera aussi un contexte à ce que je viens de partager, mais c'est la fin de la prédication. Seigneur, tu as créé les êtres humains à partir de la poussière. Difficile pour nous de pouvoir saisir, mais c'est une réalité. Difficile aussi d'imaginer que des eaux desséchées tu puisses en sortir des êtres humains.
Je m'en occupe.
Pardon.
Je rencontre quelques problèmes de connexion. Veuillez réessayer.
C'est mon ordinateur qui parle tout seul et répond à mes questions. Oui, Seigneur, nous te remercions Parce que dans des situations qui nous paraissent impossibles, toi tu interviens et tu permets que la vie puisse s'installer. À partir d'eau desséchée, tu as donné la vie à des êtres humains qui ont pu revivre d'une manière tout à fait normale. Quand nous nous voyons dans des situations impossibles, aide-nous, Seigneur, à croire que ce n'est pas si impossible que cela, parce que nous avons un Dieu tout-puissant qui peut aussi agir et qui peut donner ce dont nous avons besoin dans les moments particuliers que nous pourrions traverser. Seigneur, nous nous remettons à toi dans ces semaines à venir et permets qu'au travers de ce que nous avons lu, notre espérance en toi et notre espérance aussi de voir des choses qui changent puissent grandir de jour en jour. Merci pour ton action dans nos cœurs et dans le cœur de nos contemporains. Amen.